Star Wars en direct vous est présenté par SiteClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com.
Bienvenue à cette 18e émission de Star Wars en direct, édition Clone Wars. Cette semaine, nous discutons du 21e épisode Liberty on Ryloth. Cet épisode a été écrit par Henry Gilroy et réalisé par Rob Coleman. Au niveau de la distribution, nous retrouvons Terrence Carson dans le rôle de Mace Windu, Robin Atkin-Dawes pour Sham Syndulla et Matthew Wood pour Wat Tambor. Voici un court résumé de l'épisode. Obi-Wan Kenobi a réussi à détruire les canons des séparatistes, mais la bataille pour la libération de Ryloth est loin d'être terminée. Il faut maintenant reprendre la capitale de l'Essou des forces droïdes contrôlées par Wat Tambor. La mission est confiée à Mace Windu, connu pour ses talents non seulement de négociateur, mais également de combattant. Il doit mener ses armées de la République de l'autre côté d'un pont de plasma pour atteindre la capitale et faire prisonnier Wat Tambor. Mais pour réussir cet exploit, il doit d'abord demander l'aide des combattants de la Liberté dont le chef est Sham Syndulla. L'équipe de Star Wars en direct a commenté cet épisode et voilà notre discussion. Alors bonjour Danny.
Bonjour à tous.
Ça va ?
Bien sûr.
Et on accueille aujourd'hui un nouvel participant, Sébastien, bonjour.
Bonjour.
Qui provient de Star Wars Universe, un petit nouveau là-bas aussi également. Ça va bien de ton côté ?
Oh oui, ça va.
Donc j'imagine que tout le monde a vu l'épisode.
Bien entendu.
Oui.
Alors des petites notes de départ avant qu'on attaque le long résumé.
Ben personnellement, j'ai trouvé que c'était un excellent épisode. Je considère que c'est ça que la guerre des clones devrait être. Je veux dire, l'émission Clone Wars devrait montrer ce genre de bataille, ce genre de conflit. C'est vraiment un épisode qui était, ben je dirais peut-être une trilogie qui était modèle, qui devrait être suivie régulièrement.
Bah moi c'était plutôt l'inverse en fait. Je trouvais que pour la conclusion d'une trilogie c'était peut-être un peu minimaliste. Mais par contre j'étais content de retrouver un Mace Windu plus Jedi que dans les dessins animés.
C'est sûr. Il faut dire que les précédents dessins animés étaient de toute façon un peu exagérés.
Oui mais j'avais l'impression de regarder un épisode de Dragon Ball donc.
Oui non je voulais dire que j'avais bien aimé l'épisode mais quand tu parlais de la trilogie je pense que le... Je crois que le premier est quand même le reste le plus faible de la trilogie. Quand on y repense, je pense que c'est le... Je sais pas, peut-être qu'on voit... Parce qu'on voit trop Anakin, je sais pas. Donc, après avoir vu la seconde et la troisième partie, je trouve que le premier reste l'épisode le plus faible de la trilogie.
C'est qu'on voit Anakin un peu trop souvent, peut-être, à notre goût en général. Donc, le fait qu'il soit absent, ça fait du bien.
Ouais. Parce qu'Obi-Wan était un très bon Jedi, donc c'était agréable. En plus, on était surtout avec les deux clones et la petite fille pendant un grand moment. Et là, dans la nouvelle trilogie, dans le dernier épisode, on voit surtout Mace Windu, donc qu'on a rarement vu dans la série.
Mm-hmm. C'est dommage. Même si on savait le dénouement de l'épisode, c'est étrange que le titre représente le dénouement de l'épisode. Oui, on pouvait s'en douter que la planète allait être libérée. Là. Le titre donnait la résolution de l'épisode. C'est plutôt surprenant.
On s'y attendait, de toute façon, donc...
Il aurait fallu qu'il appelle l'épisode « The Mace Unleashed
». J'ai vu certains types d'épisodes, ils auraient presque pu le faire, ça.
Mm-hmm. Oui, puis c'est la première fois que je remarque le titre, le nom des épisodes, le titre des épisodes, si on va pas sur le site officiel, on n'a aucune notion de c'est quoi les titres. Si vous remarquez, il s'est jamais écrit nulle part le titre de l'épisode à chaque fois qu'on les écoute. Donc j'imagine que c'est juste vraiment si tu vas sur le site officiel que tu peux savoir le titre des épisodes.
Ouais, de toute façon, j'ai remarqué que beaucoup des séries maintenant actuelles ne mettent pas le titre des épisodes.
En effet, t'as raison, c'est vrai.
Je regardais le nouveau Lost ce matin, il n'y a pas le titre. Smallville, ils mettent pas les titres. Supernatural, ils les mettent, les titres. Je sais que... Et beaucoup de séries comme ça, NCIS, ils mettent les titres, Medium, ils mettent pas les titres, donc il y a beaucoup de séries, donc c'est pas la première à pas mettre les titres, je sais pas, peut-être qu'ils veulent pas mettre sur l'épisode, ça dépend de, leur, des décisions peut-être. Peut-être que pour Star Wars, ils voulaient pas mettre, c'était The Clone Wars en fait, quel titre générique peut-être. Maintenant que les canons ont été détruits par Obi-Wan Kenobi, les forces républicaines de Mace Windu peuvent avancer librement sur le monde de Ryloth. Mais les armées droïdes séparatistes ne sont pas prêtes à abandonner et ils rencontrent une vive résistance. Plusieurs AT-TE sont bloqués et Mace est obligé de prendre la direction d'une troupe de AT-RT qui rappelle sans mal les AT-ST. Les tanks ennemis sont bien vite détruits, mais les pertes sont lourdes. Ce qu'ignore Mace Windu est qu'il est espionné par un droïde sonde séparatiste dont la vidéo est regardée par Wan Tambor et son droïde. La bataille n'est pas encore terminée. Il faut reprendre la capitale de l'assaut qui est aux mains de l'ennemi. La seule solution pour y arriver, demander l'aide aux combattants de la liberté menés par Shamsindula, un Twi'lek rebelle. Le chancelier suprême et Han Frita ne sont pas entièrement d'accord, mais se doivent d'accepter. Donc c'est la première grande partie de l'épisode, c'est la première bataille avec l'avancée des troupes de Mace Windu.
Ça, j'ai vraiment aimé l'intelligence des droïdes, c'est plutôt surprenant, ouais. Mais bon, d'être capable de penser à bloquer l'avant et l'arrière pour les, ouais. Les bloquer, c'était vraiment...
Ils ont subi une mise à jour.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai bien aimé, sauf que j'ai un peu du mal avec la lenteur des ATTE, en fait. Ouais. Les voir avancer, t'as l'impression que les autres vont mourir de vieillesse avant qu'ils arrivent, finalement.
Ouais, je pense que dans l'épisode 2, ils étaient déjà un peu lents comme ça, si je me souviens bien.
Ouais.
Ils n'ont jamais été assez rapides.
Mais bon, c'est les, c'est les ancêtres des AT-AT, là. Donc, ouais. même eux, ils vont très lentement, donc.
Ouais. En fait, c'est plus leur puissance qui rattrape le coup, en fait.
Ouais.
La chose qui est remarquable, puis pas nécessairement dans cet épisode-là, mais en général dans la série, c'est que les bons, donc la République, sont toujours supérieurs aux séparatistes. Ils ont jamais à surmonter d'impossibles obstacles et se lever au-dessus du niveau de l'ennemi parce qu'ils sont tout le temps supérieurs en intelligence, en qualité, en matériel. Donc, ils sont jamais dans un état critique ou rarement dans un état critique pour se défendre. Peut-être dans Ambush, dans le premier, quand Yoda était seul contre...
toute une armée, tu peux le
dire. C'était pas une armée complète, mais c'est ça. Il y avait un bon regroupement de séparatistes, mais c'est peut-être la seule fois vraiment qu'il était en infériorité. Mais quand t'as Yoda avec toi, est-ce que tu peux vraiment considérer que t'es en infériorité?
Et ce que je remarque surtout, c'est que, encore une fois, on l'avait déjà remarqué dans les épisodes précédents, mais, quelques petits, bipodes, là, ça suffit pour détruire un char séparatiste des droïdes. Mm-hmm. En 3-4 coups, ça y est, plus de char.
Par contre, j'aimais bien l'utilisation de Mace Windu de la force pour briser la verrière, pour libérer le clone blessé.
Mm-hmm. On avait fait la remarque que c'était les points de rupture, comme on a vu dans le bouquin Shatterpoint.
Ouais, c'est ça. Mace Windu a la capacité de regarder dans la force puis de trouver les points faibles autant dans la matière ou dans l'être humain, autrement dit. Il est capable d'avoir une faille, puis sans effort, il est capable de faire écrouler une structure juste il sait où inscrire la force pour que tout s'écroule, puis c'est la même chose avec les événements.
Ouais, je l'avais lu ça.
C'est ça, dans Shatterpoint, et Mace Windu s'en veut... c'est-tu Shatterpoint? Oui. Mace Windu s'en veut énormément de ne pas avoir tué le comte Dooku pendant la bataille de Geonosis parce que il a vu dans la force que c'était le point de rupture s'il aurait tué Mace Windu, la guerre des clones n'aurait peut-être pas eu lieu, donc...
Je pense aussi, hein. C'est comme lui qui... On se demande aussi, parce qu'avec Sidious qui est quand même derrière tout ça, il aurait peut-être pu trouver quelqu'un d'autre pour prendre ses ordres. Non, c'est juste pour dire que les points de rupture, si on regarde ça, c'est comme une château de sable, t'enlèves juste un grain et tout s'écroule. Mm-hmm.
C'est ça. On parlait des AT... Ben, je sais pas si les petits AT-ST, là, mais je sais pas si c'est les
AT-RT.
OK. Ben, je trouve qu'il bouge un peu trop comme un être vivant plutôt que comme de façon mécanique. Ouais, comme un poulet, c'est ça. C'est... je trouve que c'est pas assez mécanique comme mouvement, mais c'est un détail. Mais puis aussi les troopers qui pilotaient ces AT-RT, je sais pas si on les a déjà vus. Il y avait une espèce de nageoire de requin sur le casque. Là. Moi, je les avais jamais vus.
Je crois qu'on les voit rapidement durant la bataille de Kashyyyk dans La Revanche des Sith.
D'accord.
Je me souviens d'une scène, à un moment, ils sont en train de rechercher Obi-Wan Kenobi après qu'ils pensaient l'avoir tué, et on les voit justement quelques-uns sur ça qui cherchent sur un vaisseau Wookiee écrasé. Le problème, c'est qu'on les voit pas courir. Je me souviens pas si on les voit courir ou pas dans le film. Enfin, j'ai pas eu le temps de le voir.
En fait, le truc le plus bizarre, finalement, c'est vrai qu'il bouge vachement bien. Finalement, et quand tu regardes la manière de diriger, c'est vaguement un guidon de vélo, finalement.
En effet.
Ouais.
Tu te dis, il n'y a pas de commande de pied, ou donc tu comprends un peu difficilement comment ils arrivent à tirer, les faire sauter. Tout ça, c'est un peu, vachement, c'est un peu bizarre.
En effet. Avez-vous remarqué que, je pense qu'il y a certains collectionneurs de prodeurs qui vont peut-être soupçonner qu'il va bientôt avoir des ATTE camouflage parce que dans cet épisode les ATTE étaient en camouflage, donc on peut imaginer qu'Hasbro vont sortir une version camouflée du véhicule.
On peut s'attendre à tout, hein, de la part de Lucas.
Peut-être parler un peu de Mace Windu en tant que tel. Bon, déjà un peu voir Mace Windu, comme on a mentionné un petit peu, je pense au début, ça m'a rappelé l'épisode de l'ancienne série qui était comme Super Mace qui volait partout, qui détruisait tout à lui tout seul, qui fait ça de façon expéditive et efficace. Ben, je trouve que c'est un exemple de ce que les Jedi devraient être au combat, vraiment sans peur et sans... Il est toujours à la bonne place au bon moment. Le modèle 3D, je l'ai trouvé étrange. Il était un petit peu caricaturé. Je sais pas si vous avez vu son arcade sourcilière, de la façon qu'elle bougeait.
Oui.
C'était un petit peu, on dirait fait à la dernière minute, je le sais pas, là. Cependant, l'acteur vocal, je pense que c'est Terrence Carson, il y avait vraiment Mace Windu à la perfection, là. C'était vraiment excellent comme...
En fait, ça dépend un peu des moments, parce que quelquefois, j'ai vraiment l'impression d'entendre Samuel Jackson, mais à d'autres moments, je trouve que sa voix est un peu trop plus grave que celle de Samuel.
D'accord.
Donc, mais sinon, tu parlais du modèle 3D, c'est vrai qu'à un certain moment, je sais plus à quel moment exactement de l'épisode, mais il est à moitié accroupi, il est très proche de la caméra, et j'ai trouvé que c'était vraiment, à ce moment-là, était vraiment horrible.
Mm-hmm. Mais j'ai trouvé, enfin, personnellement, que l'épisode était un tout petit peu en dessous au niveau graphisme de ce qu'on avait l'habitude de voir dans les précédents. Enfin, c'est peut-être un avis. J'ai trouvé que les paysages étaient fort dépouillés, finalement, et quand voilà, Mace Windu, effectivement, un petit peu moins bien réalisé, moins complet que les autres personnages qu'on a l'habitude de voir.
Mm-hmm. Tout le budget a été sur les nouveaux modèles 3D.
Pas faux.
Mais bon, on a vu, je pense, quand il y avait une espèce de conférence holographique, on a vu la planète Ryloth. Pour la première fois, on la voyait vraiment. Puis dans l'univers étendu, encore une fois, je pense que je l'ai mentionné au dernier épisode, la planète, elle ne tourne pas sur elle-même.
Donc, ouais, non, elle est coupée en deux, ouais.
C'est enfin, ça. Donc, niveau, c'est ça, il devrait avoir un côté éclairé puis un côté sombre. Mais tu regardes l'hologramme, puis c'est pas du tout ça. Je veux dire, c'est... Il en tient pas compte du tout. C'est une grosse erreur. Je pense même dans un des autres épisodes de la trilogie, Mace Windu, il mentionne on va arriver après la prochaine révolution de la planète. Tu sais, donc autrement dit dans une journée. Mais encore une fois, c'est une grosse erreur côté univers étendu. Je veux dire, ça fait longtemps que Ryloth existe dans l'univers étendu, puis je trouve ça étrange que des Filoni qui connaissent bien l'univers étendu à y laisser passer ça.
C'est un peu comme on dit à chaque fois, ils utilisent des trucs de l'univers étendu quand ça les arrange, ils le gardent, et quand ça les arrange plus, ils modifient, quoi.
Ouais, parce que les Rilos, les habitants, ils habitent dans les grottes, non, dans l'univers étendu.
Oui.
Ouais, je pense.
C'est ça. Donc, t'as un côté qui est brûlant, pis t'as un côté qui est congelé, donc. Hein? Enfin.
Ça convenait pas pour l'épisode, donc on change. Donc après, faut voir comment l'univers étendu va régler ce problème maintenant.
Ouais, enfin.
Ils vont raconter que ça dépend des saisons.
Il y avait le général Twi'lek, son nom c'était...
Shamsindula. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il le mentionne en tant que général, parce que c'est quand même un peu un rebelle, donc comment il fait pour avoir un titre presque officiel?
Ouais, ça doit être honorifique plus qu'autre chose, étant donné que c'est lui qui était le leader. Ouais. Ses habitants auraient pu l'appeler président ou peu importe, là. Je veux dire, c'est
Oui, en plus qu'au niveau, enfin, au niveau du personnage, il a quand même l'air vachement, vachement jeune pour arriver à être général déjà. Enfin, le personnage fait vachement jeune, quoi.
Je confirme. D'ailleurs, je voulais revenir tout petit peu en arrière sur la première partie de l'épisode. Mm-hmm. À un moment, il parle du fait que, j'ai l'impression que, je sais pas si vous avez vu ça, j'ai l'impression que l'épisode, là, se passe à peu près en même temps que le précédent, en fait, parce que on parle du fait qu'Obi-Wan vient de récupérer un peu tout,
les déserts du sud ou quelque chose comme ça.
Et en plus, je me demande si justement le droïde sonde, c'est pas celui aussi qui envoie l'autre droïde dans l'épisode, justement, l'épisode avec Obi-Wan, parce que je me souviens qu'il en envoie deux, et on en voit qu'un qui surveille Obi-Wan. Donc, est-ce que le second pourrait être celui qui surveille Mace Windu en même temps, là?
Peut-être, cependant, si il faudrait que la ville de Lesu soit dans le même secteur que où est Obi-Wan, parce que s'ils disent, d'après qu'est-ce que je peux voir quand ils présentent la planète, et puis quand ils parlent de la ville de Lesu, qui est vraiment plus au nord, sur l'hémisphère nord, puis il parle des Southern Plains, pour les plaines du sud, où est-ce que Obi-Wan est, donc j'imagine que c'est pas les mêmes, si c'est le cas. Si les Sioux est au sud, elle aussi, d'accord, je peux comprendre que ça pourrait être le même droïde ou un des deux qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Si on peut parler peut-être, avant que tu commences ta deuxième partie, une chose que j'ai remarqué par rapport aux Twi'leks, j'ai toujours pensé que leurs oreilles, c'était les espèces de petits cônes triangulaires qui sortaient de leur tête. Mais si vous remarquez dans ces épisodes-ci, ils ont des oreilles. Orn Fruta a des oreilles, le Shindula a des oreilles. Donc, c'est pas vraiment le cône triangulaire qui est les oreilles des Twi'leks, faut croire. Ou ben, t'as deux races de Twi'leks, ou je sais pas trop, il y a des déformations.
J'avais jamais fait attention à ça. Je sais que j'avais jamais pensé que c'était que les oreilles étaient les petits cônes, mais je savais pas fait attention qu'ils avaient aussi des oreilles.
C'est vrai qu'avec Ayla Secura, elle a une espèce de comme un casque en cuir, là. Donc ça peut cacher les oreilles, puis il y a juste les petits triangles qui sortent sur les côtés.
Voilà, j'ai une image de Oula avec une des autres danseuses de chez Jabba. Mm-hmm. Il y a que Oula qui a les petits cônes, c'est une sorte de petit chapeau qui lui fait qui fait ça sur les côtés, en fait.
D'accord, parce que si tu regardes Ayla Secura, c'est bleu, qu'est-ce qui sort, donc c'est ça doit être sa peau, j'imagine. Enfin, peut-être faudrait voir aussi la petite qu'il y avait dans l'épisode précédent, voir si c'était le cas aussi, si elle avait des oreilles ou les petits cônes. Enfin, j'ai toujours pensé que les cônes triangulaires étaient leurs oreilles, dans le fond, avec lequel ils captaient les sons,
là. En tout cas, apparemment, là, sur une des photos que j'ai vues, l'autre Twi'lek n'a pas les cônes.
La petite a les cônes. Hein. J'ai une photo là et le petit cône sur le côté avec le chapeau et les cônes qui dépassent juste, en fait.
Mm-hmm. Ça dépend peut-être des Twi'lek, en fait.
Ouais, c'est ça.
Peut-être des races dans la race, en fait. Peut-être.
C'est ça. Ils sont peut-être dans l'hémisphère sud. Non, dans l'hémisphère sud, ils ont des cônes et dans le nord, ils ont des oreilles. C'est pas...
Oui, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, on n'a pas parlé encore, c'est Wat Tambor et le droïde. Mm-hmm. Le droïde, j'ai l'impression qu'il prend vraiment Wat Tambor de haut. Il a l'impression d'être plus intelligent que le chef séparatiste.
Ben, si on regarde l'épisode précédent, il disait « j'ai toujours raison ». Il disait à Wat Tambor, je pense, par communication, ou je sais pas si c'est Wat Tambor ou Dooku, il dit je suis un droïde, j'ai toujours raison. Donc.
Oui. Moi, j'ai bien aimé le retour de Wat Tambor. Ça change un petit peu des méchants habituels qu'on retrouve tout le temps, Dooku, Grievous. Donc, lui, ça faisait un moment, je pense, qu'on l'avait pas vu.
Moi, je crois pas qu'on l'ait vu encore. On l'avait pas encore vu dans la série.
Ouais, on l'avait vu dans le film. Il apparaît dans l'épisode.
Rapidement. De...
Mais ça faisait un peu. Ça changeait un petit peu finalement des ennemis habituels.
Je me souvenais pas qu'il était sur roulette.
Non, moi non plus.
Non, moi non plus.
Moi non plus, j'y pensais pas du tout à ça. Et... Je voulais en parler, voulais le mentionner plus tard, mais comme tu en parles maintenant.
Puis aussi Wat Tambor, un titre que je ne connaissais pas, qui est Émir Tambor, donc comme les Émirats arabes un peu là.
Ok, j'avais remarqué ça, oui.
Donc c'est quelque chose de nouveau là.
Le maître Jedi retrouve bien vite les traces des combattants de la liberté. En suivant une troupe de droïdes, Mace est accueilli par les combattants qui l'emmènent dans leur refuge. Sans surprise, il ne souhaite pas se lier à la République pour les aider à combattre. Pendant ce temps, dans la capitale, le droïde commandant et Watt Tambor continuent de comploter et de nouveaux chasseurs vautours bombardiers s'apprêtent à être lancés. Ces derniers vont aller s'en prendre à des villages entièrement sans défense, habités seulement par des femmes et des enfants. Apprenant la nouvelle, Shamsindula change d'avis et accepte de passer un marché avec le sénateur Han Frita pour permettre la libération de son peuple. Donc c'est la grande deuxième partie avec toute la, pour convaincre les combattants de la liberté par Mace Windu. Bien que ce dernier ne fait pas grand chose, c'est plutôt plus les actions des droïdes qui font décider les rebelles. Mm-hmm.
Mais il y a quand même le général, justement, Twi'lek, que, bon, au départ, quand je l'ai entendu, sa voix, j'ai dit, est-ce que c'est Antonio Banderas? L'accent est supposé être un accent français, d'après ce que Dave Filoni disait que les Twi'lek avaient comme accent. Donc, mais c'est là qu'on voit que l'acteur vocal n'était pas trop capable de faire un accent français. Mais j'avais l'impression que ça sonnait plus peut-être espagnol que français.
Pour l'accent Twi'lek, j'ai du mal à sortir l'accent français à l'intérieur.
Mm-hmm. Ben, c'était dans Jedi Crash et Defender of Peace que tu avais Ayla Secura. Et moi, au départ, comme j'ai déjà mentionné à l'émission, j'avais l'impression que c'était un accent russe qu'on avait quand c'était un accent français manqué. Donc, enfin.
Ouais. Ils auraient dû même prendre un français, autant.
Ouais.
Carrément. Il y en a des tonnes des Français qui doivent parler. Ils doivent bien parler la langue. Je sais qu'en plus, les acteurs font bien.
L'imitation?
Voilà, merci pour imiter un accent.
Ben, si tu écoutes Lost, quand même, t'as vu dans les derniers épisodes que quand la troupe de Daniel Rousseau arrive sur l'île, il y a des bons acteurs à Hollywood, des Français qui sont capables de parler anglais.
Ben, moi, j'aimais bien le champ de bataille. Je trouvais que c'était pas mal fait, finalement. L'idée du camp des rebelles dans un ancien porte-vaisseau droïde, je pense.
C'est ça.
Par contre, souligne un peu une autre question, c'est quand tu vois le nombre de carcasses, tu te dis que finalement, il doit y avoir quand même pas mal de droïdes et la patrouille est composée de 4 ou 5 droïdes de combat, petits droïdes de combat et 2 super droïdes. Tu te dis que c'est un peu peu pour aller chasser des rebelles.
Ouais, j'avais pas remarqué la quantité, mais maintenant que tu le mentionnes, en effet, il me semble qu'il y avait beaucoup de carcasses, mais bon, peut-être qu'il y avait des... On n'a pas vu s'il était rouillé ou pas. C'est peut-être un acier inoxydable.
Par contre, j'avais pas le souvenir qu'ils étaient à la recherche des rebelles. Ils étaient à la recherche des rebelles, les quelques droïdes?
Non, ils suivaient Mace et les deux.
Je pense qu'ils disaient. Ils surveillaient une ancienne. En fait, ils cherchaient une autre patrouille qui avait disparu avant eux.
D'accord.
C'était pour ça, juste.
Voilà, c'est chercher la patrouille. Voilà, c'était chercher la patrouille perdue.
Donc, ils sont tombés sur la patrouille perdue, ils se sont perdus eux-mêmes. En effet, mais j'ai bien aimé voir le cimetière, mettre un peu de drame dans ce plan-là, ce plan de vue-là. Là. C'était quand même bien. Là.
Par contre, ce que je m'ai trouvé un peu bizarre, c'est qu'on n'arrête pas de dire que Mace Windu est un grand négociateur et tout ça. Et au moment de négocier le traité, en fait, déjà dans la seconde partie, on le voit pas négocier, vu que c'est plutôt les actions des droïdes qui vont décider Shamsindula à prendre les armes. Et ensuite, quand il s'agit de négocier avec Han Frita et Shamsindula, il fait pas grand-chose, en fait.
Ouais, ben moi, personnellement, j'ai jamais vu Mace Windu comme un grand négociateur, même si on dit ça de lui. Pour moi, le meilleur négociateur, c'est Obi-Wan. Obi-Wan a vraiment plus l'attitude, a vraiment plus le genre d'être négociateur, tandis que Mace Windu, c'est plus le genre à mettre son pied à terre, et puis, je veux dire...
En fait, on l'appelle négociateur uniquement à cause de sa phrase qui est dit... Dans l'attaque des clones, quand il dit que les Jedi sont pas des combattants, ils sont des gardiens de la paix, tout ça. C'est venu un peu de ça, le fait qu'il soit.
C'est surtout quand même un des Jedi quand tu vois un peu tout ce qui est autour de lui, un des quand même assez agressif dans ses actions, même dans sa technique de combat qui est quand même proche du côté obscur.
C'est exactement ce que j'allais dire. Il est vraiment à limite avec le côté obscur, donc ça va très bien avec son style de combat là.
Oui, en plus
qu'on voit dans l'épisode.
D'ailleurs, si je me trompe pas, justement, c'est la technique de sabre laser qu'il utilise, dont on parle dans justement Point de Rupture. Si je me trompe pas, c'est ceux qu'utilisent les Sith.
Non, en fait, c'est lui qui l'a mis au point avec l'autre, j'ai oublié son nom, qui s'allie à Doku finalement, et en fait ça l'amène justement juste à côté du, enfin c'est censé utiliser toute son agressivité et tout ça pour l'amener au bord du côté obscur. C'est pour ça que ça pose quelques problèmes plus tard quand il essaie de l'apprendre à celui qui a été le maître d'Alias Sekura, j'ai oublié son prénom.
Quinlan Vos.
Voilà, c'est ça, quand il essaye de lui apprendre et que c'est pour qu'il se rende compte que ça l'amène trop proche du côté obscur finalement.
Mm-hmm. On parlait des négociations entre Ornfrita et puis Chamsindula. J'ai vraiment trouvé que c'était plutôt mauvais. C'est encore Sébastien, toi t'es belge, donc on peut vraiment considérer comme si c'était les deux parties de la Belgique, comme t'as la partie comme on dirait une résistance et puis t'as l'autre côté qui est plus gouvernemental, ouais. Ou je sais pas trop. Puis ils sont pas capables de s'entendre pour sauver des séparatistes.
Ouais. T'as l'impression qu'ils ont voulu un petit peu pas trop se mouiller parce que finalement ils n'arrivent pas à s'entendre et finalement pour deux mecs qui sont censés se détester, ils se détestent pas tellement que ça. Ils arrivent quand même rapidement à s'entendre alors qu'ils sont censés quand même être vachement pas super proches quoi.
Ouais, c'est ça.
Enfin, ils auraient dû aller ou d'un côté ou de l'autre et pas essayer de rester entre les deux, je trouve. En fait.
Mm-hmm. Ouais, comme tu dis, ils veulent pas trop se mouiller parce qu'il faut dire aussi c'est une série pour les enfants, ils veulent dire ils vont vite faire copain pour que tout aille, tout va bien dans le meilleur des mondes.
Mais Palpatine n'avait pas dit que Syndulla était comme un rebelle avant, comme un adversaire politique quelconque à la société Twi'lek ou à Ornfrita dans le temps qu'il était sur la planète ou quelque chose comme ça. Il me semble qu'il mentionne ça pendant la conférence holographique. Palpatine dit « Ouais, mais Chindula est réputé pour être contre le gouvernement puis tout ça, comme si c'était un séparatiste, là, mais... »
Ah oui, c'était un radical avant la guerre.
Un radical, c'est ça. Ouais. C'est exactement le mot que je cherchais, là. Donc, il était vu comme un radical, donc c'est pour ça que l'entente était plutôt difficile, même si ça s'est résolu rapidement.
Je voulais dire, ça me fait un peu rappeler le fait que les Jedi, dans l'épisode, je ne sais plus lequel, n'emprisonnent pas le chef pirate. Donc en fait là, parce qu'ils ont rien à voir avec les pirates, pourtant c'est un pirate, ils l'emprisonnent pas. C'est avec l'épisode avec, je crois qu'après, donc, le Captured,
comment
il s'appelle, il laisse le chef pirate s'en aller, quand c'est quand même un pirate, donc un contrebandier, un truc comme... un méchant, ils ont pu l'emprisonner parce que c'est quand même un ennemi de la République. Là, c'est un peu la même chose, c'est un radical, mais ça y est, ils font copain-copain pour régler le problème. Il s'en sort aussi comme de rien.
Ouais, ils disent peut-être qu'à ce niveau-là, il fera sûrement autant de dégâts chez les séparatistes, qu'il fera autant le laisser libre, qu'il ennuiera autant les séparatistes, si ce n'est plus en tout cas. Mm-hmm. Parce que les pirates, c'est finalement un petit peu ce qui se passe, quoi. Comme ils s'allient pas vraiment, plutôt tacitement aux Jedi plus qu'aux séparatistes, hein. Puisque Doku, en s'enfouillant dans cet épisode-là, tue un des pirates.
Puis en plus, on sait que Ornfrita est entre guillemets un partisan de Palpatine Sidious, il me semble. Il aide Sidious, il aide Palpatine. Peut-être que Ornfrita le sait pas que c'est Darth Sidious, mais des fois on a l'impression qu'il le sait. Puis qu'il est toujours de son côté, sauf. Donc peut-être que le fait que Palpatine mentionne « Ouais, mais c'est un renégat, je veux dire, c'est un rebelle, et on devrait peut-être pas s'allier à lui. » Donc je sais pas c'est quoi les motifs de Ornfrita déjà en arrière de ça. C'est dommage qu'on voit pas plus loin après l'épisode, voir la résolution justement de cette entente, s'il y en a qui ont brisé l'entente, que ce soit d'un bord ou de l'autre. Entre Chem Syndulla et Ornfrita, s'il y en a un ou l'autre qui brise l'entente. Mais j'ai l'impression qu'Ornfrita, encore plus que Chem Syndulla, fait ça pour son pouvoir personnel.
En fait, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je pense que c'est en fait un petit peu représentatif de l'épisode en général. On a l'impression que c'est un épisode dans la trilogie, mais sans vraiment être la conclusion attendue à une trilogie, justement, parce que t'as des réponses qui restent quand même... Enfin, des questions qui restent encore... sans réponse, et puis t'as des événements, enfin, j'ai trouvé que c'était un épisode qui était bon, mais c'était, qui valait pas une conclusion, quoi.
Mm-hmm. Ouais, faut dire que ça se termine très rapidement aussi. Faut dire qu'encore une fois, ils sont limités par les 20 minutes. Mm-hmm. Par exemple, il aurait fallu voir si, par exemple, ils avaient fait cette trilogie Ryloth en film d'1h40, par exemple. C'est-à-dire qu'ils auraient presque eu 20 minutes de plus pour raconter l'histoire.
Ça aurait été mieux que ce qu'il y avait au cinéma, en tout cas.
Ça D'ailleurs, je pense qu'ils ont vraiment choisi la plus mauvaise histoire pour passer le film, en fait.
Ouais.
Parce que le Malevolent, c'était pas mal. Et là, maintenant, la trilogie Wild Earth était vraiment aussi très bien comme histoire qu'on aurait pu voir au cinéma.
C'est ça. Est-ce que c'est juste moi, mais on dirait que les leaders de race sont tout le temps obèses puis différents. Non, je m'explique. Unfrita, je savais qu'il y avait des... au début, j'étais pas sûr s'il était vraiment Twi'lek quand je l'ai vu dans les films pour la première fois. Oui, il y avait des Leku, mais est-ce que c'était vraiment des Leku? J'étais pas sûr. Parce qu'il y en a quatre. Lui, il y en a deux en avant et deux en arrière, si je regarde la figurine, il me semble. Et puis, il est plus obèse, tandis que les autres Twi'lek, ils ont seulement deux Leku. Et puis, si tu regardes... en plus, il est obèse. Puis, si on regarde, par exemple, les Gungan... Si on regarde Boss Nass, il est vraiment différent des autres Gungun. Il y a pas les yeux sur des petits piédestals. Les Gungun ont des yeux comme sur des, j'essaie de trouver le mot là, qui sont des orbites qui sont sorties du crâne. Tandis que Boss Nass, il y a des yeux plus normales à l'intérieur du crâne, donc il est différent aussi. Donc c'est étrange que une mutation quelconque donne comme un leader.
Encore une fois, c'est peut-être des races en milieu des races. Hein.
Ouais.
Des toilettes qui n'ont pas des petites bosses, mais il y en a donc qui les ont, et l'autre, il y en a d'autres qui sont peut-être plus disposés à être obèses, comme tu dis.
Mais c'est des versions uniques qu'on a vues comme dans les films. Donc, des versions uniques par rapport à leur supposée race. C'est plus ça que la remarque.
Sinon, ce que je reviens un peu sur la réunion avec Mace Windu et Shem Syndulla, même s'ils en parlent, je trouve qu'ils partent ils perdent du temps quand même à regarder la petite danse des Twi'lek. même si c'est pour dire. Mais en plus, même s'ils disent que c'est juste pour oublier la guerre, c'est comme la guerre. Hein. Ils vont pas perdre quand même des heures à regarder une danse de Twi'lek. Alors que la guerre bat son plein, que les Twi'lek meurent, tout ça.
Ça leur aurait été un bon moment pour insérer Oula. comme référence au film.
Oui.
En version plus jeune, bien sûr.
Ouais, elle devait être toute petite, je pense, là. Elle devait peut-être avoir 10 ans.
Ouais, peut-être.
D'ailleurs, de nouveau, quand tu regardes les rebelles, tu peux supposer qu'il y en a beaucoup qui sont morts, mais tu dis aussi que le nombre est assez restreint pour mener une guérilla. Mm-hmm. C'est quand même pas tellement nombreux.
En effet.
Évidemment, tu les vois pas tous, je suppose, mais dans la base, ils sont quand même peu nombreux. Quoi.
Ouais. Et pourtant, quand on regarde la scène finale, que la célébration, il y a beaucoup, beaucoup de monde quand il y a l'espèce de parade. Donc, comme il aurait pu faire la même chose pendant l'épisode, rajouter des modèles 3D dans le fond, pas plus compliqué que ça. Tu sais, copier-coller. C'est peut-être parce qu'ils voulaient une variété. Ça aurait trop été évident d'avoir un trop grand nombre de personnages. Il a fallu vraiment qu'ils changent les couleurs, etc. des personnages, parce qu'ils ont peut-être 4-5 modèles différents de Twi'lek seulement. Donc, on les voyait répéter un peu. Tu voyais deux femmes passer qui étaient le même modèle, mais avec des couleurs différentes, etc. Donc, tu pouvais remarquer un peu. Là.
J'ai pas fait attention à ça. Pour rentrer dans la capitale, il faut d'abord passer un pont de plasma qui peut être activé et désactivé à volonté. La majorité des troupes de la République et des rebelles attendront, tandis que Mace Windu va infiltrer un convoi transportant des objets de valeur. Alors que le transport passe sur le pont, Mace Windu est découvert et le pont désactivé. Mais cela n'arrête pas le maître Jedi qui va tout de même réussir à infiltrer la base. Ses clones vont réactiver le pont et les troupes vont infiltrer la capitale. Durant la bataille, le droïde commandant va réussir à s'enfuir, laissant Watt Tambor aux mains de la République. Ryloth est désormais libéré de l'oppression des séparatistes. Donc c'est un petit résumé rapide, parce que la plupart de cette partie-là est une bataille au sol, donc pas besoin d'en raconter trop. Donc j'ai bien aimé cette bataille, évidemment. Mm-hmm. Donc
Je sais pas si c'était dans la partie avant ou pas, mais l'attaque du village... Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Déjà intéressant que Watt Tambor décide de tuer des femmes et des enfants. OK, c'est pas, on les voit pas en train de brûler puis mourir, puis on les entend pas en train de crier. Là, c'est quand même une émission pour enfants, là. Mais bon, on voit vraiment des trucs qui pourraient arriver dans une vraie guerre. Donc, j'ai trouvé ça bien intéressant qu'on montre qu'il y a des civils. Ben, c'est sous-entendu qu'il y a des civils qui sont morts. On les voit pas vraiment, comme je disais, mais Je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir mis ça. Ça met de l'impact sur l'attaque. Donc,
d'ailleurs, c'est la première fois qu'ils font un truc du genre.
Ouais.
Parce que même dans l'épisode avec Defenders of Peace, même s'ils ont la grosse arme, elle est détruite avant qu'ils l'utilisent sur des villages.
Mm-hmm. Et encore, t'avais un beau clin d'œil avec les Vulture Droids, les droïdes vautours, mais avec un pas d'à côté, comme les TIE Bombers. Donc, il y avait vraiment un petit clin d'œil à ça, là.
D'ailleurs, c'est bizarre qu'on voit, ils apparaissent, ils font des droïdes vautours bombardiers, on les voit plus jamais. Pas pour l'instant.
En effet.
Parce qu'on les a jamais revus dans la revanche des Sith et tout ça. Et tout d'un coup, ils utilisent ça, juste parce que ça les arrange. Ils disent, tiens, on a besoin de ça.
Est-ce que c'était dans l'épisode du Malevolence qui envoyait des bombardiers ou des trucs comme ça, en plus du Malevolence pour bombarder la station médicale ou je sais pas trop? Ou c'était seulement le rayon magnétique? Là.
Non, je crois qu'avec le rayon magnétique, je pense.
Ouais, d'accord.
Ils envoient des chasseurs intercepter les Y-Wing plus tard, mais ce sont des chasseurs non
haut. Ok, quoi. D'accord.
Non, c'est vraiment la première fois. On voit les bombardiers, comme ça, on se demande d'où ils arrivent. Et j'espère qu'on va les revoir, au moins ça fera une continuité, mais si on les revoit pas, ça fait un peu bizarre.
Alors, budgétairement, c'est bien de les réutiliser.
Oui.
Maintenant qu'ils les ont.
Ouais, c'est ça. Maintenant
que Moi, ce qui m'a un peu surpris, finalement, quand tu regardes, c'est que t'as l'impression qu'ils connaissent pas l'artillerie, quoi, pour affaiblir un peu les défenses. Finalement, ils y vont directement,
il y a
une artillerie. Quand Mace Windu attaque un des droïdes qui escorte le convoi, sous les yeux, enfin, quasiment sous le nez des autres, t'as aucune réaction, tu dis, ils se préviennent pas entre eux, ils ne remarquent même pas qu'il manque un des leurs, c'est un peu bizarre.
Là, peut-être une réponse au bombardement, c'est qu'on a vu qu'ils ont sorti les prisonniers, à l'extérieur, donc ils sont exposés à l'extérieur de la ville, donc s'ils font des bombardements, ils ont des chances de tuer des civils encore une fois, donc peut-être c'est l'explication, vous voyez, ils faisaient sortir les gens. Juste avant l'attaque, donc c'est peut-être une des raisons pourquoi ils n'ont pas bombardé avant d'attaquer. J'imagine que c'est la raison.
Sinon, on parlait justement des modèles réutilisés avec les chasseurs bombardiers. Ça me fait penser que j'ai trouvé intéressant de revoir les droïdes un peu plus, les droïdes commando.
C'était pas mal.
On les a vus pendant deux secondes.
Mais... ils ont comme réutilisé.
Oui, c'était très intéressant. Et après, ben c'était la séquence qui nous avait été montrée sur Internet. La séquence, on va dire comme dans la matrice Bullet Time, là, tout au ralenti avec le son tamisé, qui était vraiment excellente.
Ouais, j'espérais que ça restait dans l'épisode quand j'ai vu dans la bande-annonce, parce que je me suis dit souvent les bandes-annonces, ils font des trucs super, super sympas. Et en fait, après l'épisode, ils font un truc plus normal. Mm-hmm. Donc j'étais très content de revoir cette séquence-là à peu près. Donc, intouché.
C'est ça. En effet. C'est comme, il donnait comme un effet comme si t'avais une explosion à côté de toi. Tu sais, l'espèce de comme si l'onde de choc avait enlevé l'air, donc le son pouvait plus se propager. Comme un peu, comme dans les, je pense dans certains jeux vidéo, t'as ça, l'effet flashbang un peu, là. Dans le sens que, comme une explosion à côté de toi, tu perds la notion du son, puis tu entends un petit sifflement dans tes oreilles. C'était un peu l'effet que ça donnait. Mais bon, j'imagine qu'ils ont fait le choix de cette séquence-là parce que l'action se passe en une fraction de seconde. Donc, ils ont comme tout ralenti, quelque chose qui se déroule probablement en une seconde. Donc, j'ai trouvé ça génial. Puis, il a même pris le temps de sauver les clones en plus. Donc...
Ça, c'était pas mal de voir un petit peu, effectivement, ça permet de voir Mace Windu en action. Et tu vois quand même qu'il reste quand même vachement calme, parce que finalement, t'as quand même le pont qui se dématérialise sous eux, et il a le temps de soulever les clones, et puis de réfléchir aux solutions. Je trouvais que c'était pas mal, c'était une belle scène, finalement.
Mm-hmm. Très belle.
Puis c'est immédiatement après cette séquence-là qu'on voit Mace Windu dans sa période, je dirais, la plus proche du côté obscur, quand il crie après ses clones, « Let's get the bridge back up! » Tu sais, comme il crie très, très fort, là, puis là, les clones sont comme motivés, « Yes, sir! »
Ouais. Puis c'est pas mal de les voir courir à 3 contre les 30 droïdes en face. Ou les...
Et puis, on voit que Mace Windu est extrêmement puissant. Hein? un petit force push pour pousser un tank, des destroyer droids, des super battle droids, puis des droïdes. Pas de problème avec le tank, on fait tomber la porte en acier dessus. C'est, les deux mains dans le dos, hein.
Moi, la scène m'a rappelé un peu indirectement quand tu vois les trois clones, effectivement, enfin les deux clones et Mace Windu courir, ça m'a rappelé un peu la scène où tu vois dans le, c'est l'épisode 4 où tu vois Yann Solo qui court et qui arrive face aux 50 000 clones dans la salle,
ouais,
c'est
ouais.
Ça.
Ouais, en effet. Il y avait un peu la même ambiance, c'est vrai. Puis évidemment, l'abandon de Armfrita par le Tactical Droid, j'ai bien aimé, c'est une bonne stratégie, mais ben, je sais pas si c'était vraiment une stratégie, parce que c'est qu'est-ce que Dooku avait dit. Il avait prévu un horaire précis pour quitter.
Oui.
Et puis le droïde a tout simplement suivi l'horaire. Ouais. Dans le fond. Il a dit, ah!
Mais, ce qui est marrant, c'est de voir le petit côté content du droïde. Enfin, je sais pas, dans la voix, t'as l'impression que finalement il est content de l'avoir laissé derrière.
En effet.
Je me demande quand même s'il est pas parti, justement, un tout petit peu avant, justement, pour juste laisser, ouais, Tambor comme sur la planète.
Ouais, mais c'est parce que stratégiquement, c'est pas bon qu'un leader séparatiste se fasse capturer. Théoriquement, c'est pas bon parce qu'il peut divulguer de l'information. Donc, oui, moi aussi, j'avais l'impression qu'il a fait un peu par exprès puis il est content. Mais stratégiquement parlant, est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que Dooku a vraiment l'air content? Il a l'air un peu neutre? Parce que j'ai l'impression que Wat Tambor a été victime de son avarice. Plus qu'autre chose. Mais bon, ça donne un prétexte pour un autre épisode qui va être comment Wat Tambor va se sauver de la République, ouais. Parce qu'il est sur Mustafar, lui, dans l'épisode 3.
C'est ce que j'allais dire, oui. C'est comme tué par Anakin. Donc, ils vont sûrement envoyer Ventress pour le libérer, comme elle a libéré Newt Gunray.
C'est ça.
Dis que finalement, tu risques pas grand-chose dans les prisons républicaines. tout le monde se barre, finalement. Moi, j'aime bien la réaction du chef séparatiste quand il voit son vaisseau partir. Oh, mon vaisseau. Si on lui avait piqué sa voiture.
en plus que le transport, il y avait l'arche perdue à l'intérieur. Je sais pas si vous l'avez vu.
Ah non. Ah non, j'ai pas vu ça.
C'est dans, je pense que c'est dans la deuxième partie, la première fois qu'on voit Wat Tambor qui est en train de faire charger du matériel. Je pense la deuxième prise de vue. Quand ça revient sur le vaisseau, on voit deux droïdes qui traînent l'arche perdue en train de monter la rampe pour le mettre. Il y avait Dave Filoni qui avait mentionné qu'on verrait l'arche perdue d'ici la fin de la saison. C'est dans cet épisode-là. C'est pas très longtemps, c'est une seconde, là, mais
ouais.
On le voit vraiment. Là, c'est très clair et net que c'est ça. Là.
Une scène qui était pas mal non plus dans la scène de combat, c'est on la voit pas longtemps, mais c'est la petite la scène avec le chasseur d'Anakin. Je trouvais que elle, c'était pas très très longtemps, mais je trouvais que c'était pas mal fait. Avec le cadrage de caméra sous le tableau de commande du chasseur, finalement. Je trouvais que c'était
Un peu, je trouve, comme à bord du vaisseau, ouais.
Ouais, ouais. À bord du vaisseau, ouais.
Je trouve que c'est quand même un peu convenient, juste qu'il arrive pile à ce moment-là. On voit Anakin 2 minutes 30 secondes dans l'épisode, et c'est juste pour sauver tout le monde.
Ouais. Bon, ça reste dans le classique de la série Clone Wars à date, hein, Anakin et Ahsoka sauvent le moment, comme d'habitude. Mais bon, ça fait un lien avec toute la trilogie, même si on n'aurait pas eu besoin que ce soit eux qui pilotent, ça aurait pu être un clone pilote tout simplement qui arrive puis qui détruit les bombardiers, puis ça aurait fait la même chose.
Donc les bombardiers, ils font pas grand-chose pour éviter les tirs, donc
ouais.
Je pense que oui, tu dis juste un petit clone, hop.
Et c'est ça, ils se sont peut-être fait prendre par surprise parce qu'on voit qu'Anakin était seul avec Ahsoka, donc il a peut-être senti ça dans la force. Et puis il a dévié des autres chasseurs pour aller spécifiquement vers la ville. Mais bon, ils ont inséré Anakin et Ahsoka dans cet épisode comme ça. Peut-être qu'il aurait pu faire une bataille finale au sol avec Anakin, Obi-Wan, Mace, Ahsoka, qui aurait pu être vraiment génial aussi. Avec beaucoup plus de combos.
Je pense que ça aurait fait trop quand même.
Ouais. Ça aurait fait trop Geonosis, probablement. Ouais. Même le décor ressemble un peu à Geonosis, ça aurait fait peut-être trop comme dans les films.
Je pense que ça aurait été un peu trop exagéré. Mm-hmm. J'étais pas content, justement, de ne pas voir trop Anakin. D'ailleurs, je me suis dit, tiens, ça m'a fait, justement, j'étais pas tellement content de le revoir. Je me suis dit, tiens, pourquoi on a besoin de lui? On peut très bien se débrouiller sans lui dans l'épisode.
Mais au moins, ils l'ont utilisé comme couverture aérienne. C'est un autre exemple que Anakin est un pilote dans l'ombre, puis que c'est sa spécialité. Vu qu'Obi-Wan dans A New Hope, il mentionne, ah, ton père était un grand pilote, blablabla.
En fait, je pense qu'ils les ont appelés juste parce qu'ils étaient aussi toujours en train de combattre dans l'espace les droïdes.
Ouais. En
étant dit, on a besoin de vous, donc est-ce que vous pouvez venir un peu comme il fait dans la précédente série animée où il était en train de batailler dans l'espace et il va sur la planète pour poursuivre Ventress.
Mais j'ai l'impression que le conflit dans l'espace était terminé puisqu'on le voyait à l'intérieur du Resolute dans la conférence holographique. Puis Mace qui disait Anakin a le contrôle de l'espace maintenant, Obi-Wan a pris le contrôle du sud, donc il reste seulement la ville. Donc j'imagine que tout avait été pris en contrôle, il restait seulement un petit bloc, et c'est pour ça que Dooku disait à Wattenbor emballe tes choses et quitte au plus vite. Même on le voyait que Dooku il disait je veux pas que tu sois sur la planète quand ils vont arriver eux autres là. Fait que c'est là qu'on voit que pour Dooku, c'était pas une bonne stratégie qu'il se fasse capturer. Maintenant que j'y repense, Dooku a dit « Je veux pas que tu sois sur la planète quand ils vont arriver, là. » Donc, c'est là qu'on voit que le Tactical Droid a peut-être fait un peu à sa tête plus que qu'est-ce qui aurait été prévu.
Ben, je sais pas, quand même, le Dooku n'a pas l'air très abattu quand même, ou même en colère. Hein. On n'a pas...
Ouais.
S'il avait vraiment eu de la colère, je pense que le droïde l'aurait ressenti, quoi.
Je pense qu'il avait déjà, acquiescé la défaite, là. Je veux dire, il avait déjà accepté la défaite. Donc,
il devait s'en douter un petit peu. Peut-être qu'il voulait surtout pas que le droïde soit pris parce que les banques de données, c'est des banques de données. Sûrement plus d'informations plus facile à récupérer qu'aller poser des questions à Wattenbor.
Mm-hmm. Oui, en plus, quand on regarde la fin, il devait peut-être pas s'attendre à ce qu'il réussisse à le garder, puisqu'à l'origine, c'était prévu qu'il bombarde la forteresse, et donc le chef séparatiste aurait dû être techniquement mort à ce moment-là avec les autres.
Mm-hmm. Probablement, justement, que c'est Dooku qui a envoyé les derniers bombardiers, une fois que TX-20, je pense qu'il s'appelle, le droïde tacticien, était à bord du transport, puis il a parlé à Dooku, il dit « j'envoie tout de suite des bombardiers pour décimer la ville ». Donc, d'après lui, il s'est fait capturer. S'il est pas avec nous, personne va l'avoir. on va le tuer.
Peut-être vous avez peut-être des notes finales sur les épisodes, enfin sur l'épisode plutôt, ce sera même sur la trilogie entière.
Comme j'ai mentionné, personnellement la trilogie, je l'ai trouvée bonne et du même niveau que le Malevolence pour moi, c'est équivalent, donc c'est les deux meilleures trilogies, je dirais le Malevolence et Ryloth jusqu'à présent.
Je pense que j'ai préféré comme Ryloth parce que comme encore une fois Malevolence c'était surtout Anakin, Ahsoka parce qu'on commençait c'était le début de la série, c'était avec Padmé tout ça, donc je pense que j'ai une plus grosse préférence pour Ryloth et surtout sur le second et troisième épisode comme je le disais.
Ouais, si on considère la variété des personnages utilisés et que chacun a vraiment été mise en focus dans un épisode, oui, t'as raison dans ce sens-là que l'histoire était plus intéressante de ce côté-là, du côté personnage. Moi, c'est peut-être plus la storyline, en tout cas. Je veux dire, les deux se comparent à mon avis.
Moi, j'ai bien aimé cette trilogie, vraiment la trilogie celle-là. Hormis, je trouvais qu'elle manquait un tout petit peu de conclusion, sinon c'était pas mal. Et par contre, j'ai bien aimé dans la scène finale. Au moment de la fête où on voit que Ornfrita est sur la planète, on se demande combien de temps après s'est passée la fête. Parce que finalement, il est tout le temps en conférence, tu supposes, sur Coruscant, et là, juste à la scène finale, il est sur la planète.
En effet, c'est comme, on voyait justement, Syndulla qui disait, moi, je suis sur la planète, puis toi, t'es confortable sur Coruscant, pis c'est moi qui dirige le peuple ici. Puis là, tout d'un coup, Ornfrita arrive soudainement sur la planète. Ah non, je suis là, moi aussi.
Ah, c'est les politiciens, ça.
Ah oui. Mais c'était très identique, à la fin de l'épisode 1. Là. C'est la fête, puis c'était vraiment la libération du peuple de Naboo. Dans l'épisode 1, là, c'était la libération du peuple de Ryloth. C'était pas nouveau. dans ce genre-là. Là. Ça me faisait beaucoup penser à la fin de l'épisode 1, qui avait une bataille dans l'espace, une bataille au sol. C'était très semblable.
Sinon, c'est vrai qu'il y avait le côté, mais vous en aviez parlé dans une dernière fois, j'avais écouté, c'est avec les droïdes espions, finalement, que quand tu regardes dans l'épisode, c'était l'Empire contre-attaque, tu vois qu'ils ont des armes, finalement, tu te dis que c'est vrai qu'ils pourraient attaquer, ouais, ils sont quand même bien planqués, ils pourraient tuer Obi-Wan et Mace Windu, et finalement, ils font qu'observer.
Mm-hmm. Ah, c'était probablement une version non améliorée, ouais, c'est ça.
Bah, je crois qu'ils sont plus petits que celui qu'on voit dans le Capitaine.
Oui.
Cette semaine, le 20 mars, sera diffusé le dernier épisode de la première saison de The Clone Wars, Hostage Crisis, qui est le 22e épisode. Nous devrions y retrouver Anakin Skywalker, Padmé Amidala et faire la connaissance du chasseur de primes Cad Bane. Voilà le synopsis. Pour libérer le seigneur du crime Jiro le Hutt, les chasseurs de primes prennent le contrôle du Sénat et prennent des otages, ne sachant pas que le chevalier Jedi Anakin Skywalker se trouvent encore à l'intérieur. Donc, je sais pas si vous avez vu la petite preview d'une minute qui a été mise en ligne il y a deux jours, je crois.
Mm-hmm. La plus récente, non. Là? Ouais, c'est celle qui met un peu de musique, un peu plus plus de guitares électriques, vraiment comme pour présenter le chasseur de primes, puis montrer que c'est violent, il veut dire qu'il casse le cou d'un Senate Commando, Aura Singh qui fait du sniper sur un autre et sur deux autres plutôt.
Surtout que d'habitude on a le droit à un petit extrait carrément de l'épisode. Cette fois-ci, c'était vraiment une sorte de grande bande-annonce d'une minute.
Mm-hmm.
Mais c'est assez impressionnante d'ailleurs, j'ai trouvé.
Ouais, c'est ça que je trouve dommage, c'est que ils font des super bandes-annonces avec des trames sonores qui ne sont pas Clone Wars et ça sort très bien. Et maintenant, on revoit les mêmes scènes dans le film avec la musique Clone Wars, puis oups, ça perd de l'impact.
Ouais. Je trouve qu'il y a une voix assez sympa aussi, un peu métallique. Enfin, un peu métallique, mécanique un peu. Je sais pas, peut-être à cause de ses tubes sur la côté de la tête. En tout cas, je pense que le personnage a quelques mimiques qui vont rapidement le faire un personnage intéressant. D'ailleurs, c'était bien, c'est qu'on va le revoir dans la saison 2.
Ouais.
Puis, en tout cas, l'épisode, le fameux épisode Cargo of Doom, qu'on attend toujours.
Mm-hmm. Donc, si on regarde l'entrée de Cad Bane que dans la nouvelle encyclopédie de Sunswick que j'ai mentionné au dernier épisode, qui marque, c'est un chasseur de primes duro travaillant pour le Comte Dooku durant la guerre des clones. Bane vola un holocron contenant une liste d'enfants sensibles à la force, puis l'utilisa cette information pour kidnapper et transporter des enfants vers la planète Mustafar où Darth Sidious planifie de les utiliser pour ses propres fins diaboliques. Donc, moi je pensais au départ que ça pourrait être en partie ça qu'on verrait dans le dernier épisode, mais ça a vraiment pas l'air de ça, donc c'est vraiment plus une introduction à Cad Bane qu'on voit maintenant, mais Cargo of Doom, ça pourrait être vraiment un peu représentatif de la définition que je viens de mentionner, qui transporte des enfants vers Mustafar.
On se demande quand même s'il va avoir d'autres personnages que lui, parce que tu vois à un moment, vers la 50e seconde, qui va libérer visiblement, d'après les pieds, il y a trois personnes, donc tu te demandes, tu dis est-ce que ce sera centré sur lui, ou alors c'est lui dans la bande-annonce pour attirer un petit peu, mais il y aura sûrement, il y a l'air d'avoir d'autres personnages qui vont s'intégrer.
Ouais, t'as quand même Bail Organa, Padmé, pardon?
Il y a même le chancelier, je crois.
Ouais, c'est ça. Ah, donc t'as quand même ces personnes importantes là. Donc j'imagine que cet épisode-là va être vraiment concentré sur une prise d'otage. Et puis avec les quatre, il y a l'air d'avoir quatre chasseurs de primes, plus des droïdes commando. T'as-tu remarqué? Quand il arrive dans son speeder, oui. Tu vois des droïdes commando se cacher en arrière. Donc, oui, juste avant
un droïde assassin aussi.
Ouais, c'est ceux-là que je voulais parler, là, les droïdes assassins. Ah, tu parles des IG-88, ouais, c'est vrai. L'équivalent d'eux, c'est vrai. Mais ceux que je parlais dans le speeder, c'est les droïdes qu'on a vus 2-3 secondes dans l'épisode de cette semaine. On en voit 2-3 se cacher sur le siège arrière, donc...
Peut-être qu'ils vont utiliser Cad Bane justement pour libérer Wet Tambor.
Peut-être. Il serait déjà sur le... Ouais, c'est vrai que on peut pas se fier à la chronologie, donc l'épisode se passe quand? Durant la guerre des clones? On peut pas vraiment se fier sur l'ordre de parution des épisodes, donc.
Par contre, ce que j'aurais bien voulu, c'est ne pas revoir Anakin. Je pense que bien passé.
Mais bon, je veux dire.
Il va encore sauver tout le monde. Bon, on sait que le chasseur de primes va s'enfuir, mais Anakin va encore sûrement sauver tout le monde. Tout le monde va bien. Mm-hmm. Et tout ça, donc.
Mais bon, la définition que je t'ai mentionnée ici, qui venait de l'encyclopédie, je me demande si c'est pas peut-être une version d'un vieux script. Donc, quand Steve Sansweet a écrit l'encyclopédie, il y avait probablement des scripts préliminaires, donc il a intégré des informations, puis peut-être que cette entrée-là est complètement valide maintenant. Donc,
je pense pas, parce qu'il a quand même eu les informations sur les premières, toute la première saison, donc je pense pas qu'il ait, voilà, je pense pas qu'il ait pu, les trucs ont changé tellement d'ici, depuis.
Parce que, je veux dire, je pense pas que l'épisode va se terminer sans accroche, là. Il va avoir un cliffhanger à la fin. J'espère qu'il y en a un.
Je crois pas. Ça m'étonnerait. Peut-être juste le départ de Cad Bane, parce qu'il sera pas capturé, mais je pense pas que ce soit le genre de série. Les séries comme ça pour les jeunes, il y a rarement des cliffhangers comme on a eu dans les séries pour adultes.
D'accord. Ça aurait bien terminé. Mais bon, parce que tu as mentionné qu'il va revenir, Cad Bane, dans la saison prochaine, est-ce qu'on sait c'est dans quel épisode? C'est-tu dans le premier de la saison prochaine?
On sait pas du tout encore le. Je sais qu'on le revoit dans Cargo of Doom, mais après dans quel moment sera l'épisode, j'ai aucune idée. Il y a encore aucune rumeur de ce côté-là.
Ok, c'est juste un titre, mais on sait pas si c'est le premier de la saison prochaine.
Bah déjà, il était déjà présent dans les bonus du DVD ou Blu-ray Clone Wars, donc je pensais même l'avoir quasiment dans la première saison cet épisode-là, mais apparemment non.
Ce qui est pas mal, c'est de voir, enfin, dans le peu qu'on en voit, c'est de voir un méchant finalement un peu plus charismatique et sombre que ce à quoi on a été habitué, parce que finalement, hormis Grievous, qui est un petit peu plus impressionnant comme méchant, les autres sont plus caricaturaux, quoi, donc c'est plus que quand tu vois celui de cette fois-ci, donc, je sais plus comment il s'appelle.
Ils ont besoin d'un beau Buffett, justement, dans cette période, donc. Je veux dire, Jango Fett est mort, donc ils n'ont pas de personnage qui a comme le charisme de Boba Fett dans la trilogie. Donc c'est un bon personnage à insérer dans le fond.
Ouais, de mettre des mauvais un peu plus charismatiques, quoi, un peu plus, ouais. Parce que finalement, quand tu regardes les comics ou quoi, c'est la guerre des clones. T'as quand même quelques personnages du côté de Dooku qui sont pas mal charismatiques. C'est dommage de ne pas un petit peu les reprendre, je trouve. Mm-hmm. Pour avoir des mauvais plus charismatiques que ce qu'on a eu maintenant cette saison.
C'est certain qu'on peut pas toujours utiliser Grievous et Ventress, donc
surtout qu'ils ont il y a pas mal de Jedi noirs qui se joignent à Dooku, c'est pourquoi ne pas les utiliser justement pour dans la saison 2, ce serait pas mal, quoi.
En effet, mais je doute qu'ils vont aller aussi profondément dans l'univers étendu jusqu'à amener des Dark Jedi à cause de la règle des deux. Dans l'univers étendu, la règle des deux est un petit peu plus souple, si on peut dire.
La règle des deux, en fait, c'est des sites, les Jedi noirs.
Ouais, c'est ça, des sites officiels, mais bon, les Jedi noirs peuvent paraître comme des sites, là, un peu comme Ventress, là. Donc, on peut avoir l'impression qu'elle est une site, mais qu'elle ne l'est pas vraiment.
En fait, ils l'appellent site dans la série, dans la série, mais pour moi c'est une Jedi noire, parce qu'en fait les deux Sith, c'est vraiment Sidious et Dooku.
Exactement.
Oui, puis c'est Dooku, c'est encore c'est l'apprenti, donc lui ne prend pas vraiment d'apprenti. Techniquement, s'il respecte la règle des deux, il y a que Sidious qui peut prendre un apprenti, quoi.
Faudrait que Dooku tue Sidious et prenne Ventress comme apprenti pour continuer la règle des deux.
Mais par contre, j'ai regretté un petit peu. Dans l'ensemble de la saison, qu'on voit pas trop Anakin finalement flirter avec le côté obscur, parce que finalement, même si c'est une série pour jeunes, c'est quand même la base de la série, la base de Star Wars, en tout cas cette trilogie là. Et j'ai trouvé que c'était dommage de pas exploiter un peu plus finalement, parce qu'il l'exploite, même dans le dessin animé finalement, ils en parlent dans le combat entre Anakin et Ventress tout au début. Finalement, ici sur l'ensemble de la saison, t'as pas du tout l'impression que qu'il franchit la ligne, quoi. Donc,
je dirais garde ce commentaire, puis on va en reparler pendant la revue de la saison 1 dans l'épisode de Star Wars en direct.
Si je me trompe pas, je crois que Lucas a dit que c'était justement un des sujets de la seconde saison, justement que Anakin devienne un peu plus sombre, un peu plus noir. Ouais.
Je l'espère. Qu'on évolue un peu là, justement dans l'histoire d'Anakin. Donc, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct édition Clone War. Si vous avez des commentaires ou suggestions de sujets, laissez-nous le savoir à studio@swendirect.com ou en laissant un message sur notre boîte vocale Skype à l'usager SW en direct. Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook de la version française de Star Wars en direct et suivre nos faits et gestes sur Twitter. Ne manquez pas Star Wars en direct édition Clone War la semaine prochaine. On va vous parler de l'épisode Hostage Crisis. Et aussi, ne manquez pas, en avril, le 83e épisode de Star Wars en direct consacré à la saison 1 de la série télé Clone Wars et où l'on va aussi discuter de Fate of the Jedi Outcast de Aaron Alston. Donc, de la part de Sébastien et Henri et moi-même, mes salutations et merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct. La voix du fandom Star Wars.